Chapitre 9. Les larmes de Michel. Lorsque Michel de Préfailles s'était présenté au 34 de la rue du Bac, on lui avait répondu qu'on ne connaissait pas de locataire répondant au nom de M. Douarier. Pourtant, on en était sûr, c'était bien l'adresse qu'on lui avait indiquée. Craignant d'avoir mal vu, elle s'en fut demander dans les maisons voisines si on ne connaissait pas quelqu'un qui portât ce nom. Partout, elle reçut une réponse négative. Elle se dit alors qu'elle avait été victime d'une mystification. Mais qui pouvait en être l'auteur? Elle ne se connaissait pas d'ennemis. Cependant, en y réfléchissant, ses souvenirs se dirigèrent peu à peu et s'arrêtèrent sur le seul homme avec lequel elle eut un conflit sérieux, c'est-à-dire Jack Sorette. « Peut-être, se dit-elle en me donnant une fausse joie, a-t-il voulu se venger de la déconvenue qu'il a éprouvée vis-à-vis de moi? Est-ce lui qui m'a fait écrire cette lettre? Ce serait véritablement bien, vil et bien mesquin, de s'acharner ainsi après moi. » Lorsqu'elle rentra chez elle, son premier soin fut d'aller ouvrir son secrétaire et d'y prendre la lettre qu'elle y avait déposée. Dès qu'elle eut regardé l'enveloppe, elle poussa un cri de stupéfaction. L'adresse avait disparu. L'enveloppe était toute blanche. Elle ne portait plus que le cachet de la poste, d'ailleurs aux trois quarts effacé. Michel prit le papier qu'elle contenait. Toute l'écriture avait également disparu. Ceci, fit-elle, devient d'une gravité extraordinaire. Il ne s'agit plus en effet d'une mystification, ainsi que je l'ai pensé tout d'abord. Ce fait de m'avoir envoyé à Suresnes à une fausse adresse, et celui d'avoir écrit cette lettre avec une encre chimique qui s'évapore au bout d'un certain temps, démontre qu'il ne s'agissait nullement de m'attirer dans un guet-apens, mais plutôt de me compromettre dans une aventure équivoque. Ainsi qu'on le voit, Michel raisonnait juste, et le lendemain, ses soupçons allaient être confirmés. Vers 10 heures du matin, sa femme de chambre lui remettait une lettre qui avait été apportée par un commissionnaire. À peine avait-elle jeté les yeux sur l'adresse, qu'elle poussa un cri de surprise et d'émoi. Michel venait de reconnaître l'écriture de son mari. Fébrilement, elle décacheta l'enveloppe et lut ce qui suit. « Madame, dès ma libération qui a eu lieu il y a quelques jours, j'ai appris que vous étiez la maîtresse d'un pseudo-prince russe nommé Dimitri Silverstov. Il est d'ailleurs qu'un de ces aventuriers cosmopolites qui se sont abattus sur la France. » Tout d'abord, je n'ai pas voulu croire que vous étiez rendu coupable d'une telle infamie, et j'ai tenu pour valables les serments que vous m'aviez faits en échange des miens. Vaine illusion, puisqu'hier, je vous ai surprise dans les bras de votre amant. Inutile de nier, inutile même de vous défendre et d'invoquer les circonstances atténuantes. Toute pitié de ma part serait une lâcheté, je ne vous pardonnerai jamais. Je vous dis donc adieu pour toujours. Henri de Préfailles disparaît. Il s'en va, le cœur pétrifié, mais avec l'orgueil d'avoir réussi à dompter sa douleur et d'avoir enterré le passé dans un cercueil qu'il a cloué de ses propres mains et qui s'est juré de ne jamais rouvrir. Je vais devenir un autre homme. Je vous souhaite de redevenir vous aussi une autre femme. Adieu pour toujours, comte Henri de Préfailles. Michel demeura pendant quelques instants comme assommé sous le coup, effroyable qui la frappait, puis elle fit d'une voix brisée. « Maintenant j'en suis sûr, c'est Jacques Sorette qui se venge. Mais que faire? Comment retrouver son mari? Comment lui prouver son innocence ?» Il fallut que cette machination fût diaboliquement tourdie pour qu'elle refusât à ce point et réussît à son auteur, c'est-à-dire Jacques Sorette, fort de son immense fortune, qui n'avait rien dû négliger pour s'en assurer le succès. Pendant tout le temps de la matinée, Michel demeura accablé sous le poids de sa douleur. Mais à l'heure du déjeuner, elle dut se composer une physionomie non pas souriante, mais calme et non désespérée, car elle ne voulait rien dire à sa mère, tant elle redoutait que cette secousse suprême n'atteignît la pauvre femme à un tel point qu'elle risqua de ne point s'en relever. Et elle résolut de supporter seule et en silence son atroce martyre. Mais plus elle réfléchissait, plus elle avait l'impression qu'elle se débattait dans la vide. Comment en effet retrouver la trace de son mari? Comment parvenir jusqu'à lui et se justifier à ses yeux? Elle n'avait aucun indice qui lui permît de le rejoindre. Alors, que faire? S'adresser à la police, n'était-ce pas accabler celui qui en ce moment était encore sous le coup de poursuites judiciaires? Une telle démarche lui paraissait d'autant plus dangereuse qu'elle n'était pas au courant de la promesse que Jacques Serret avait faite à M. de Brefailles de le tirer entièrement d'affaire. Jamais encore elle n'avait éprouvé un pareil déchirement. Alors, s'effondrant sur un canapé, elle éclata en sanglots. Elle demeura ainsi prostrée pendant un long instant, tenant encore, toute froissée dans sa main, la lettre effarante que venait de lui adresser celui qu'elle chérissait par-dessus tout et auquel elle était restée si obstinément et si amoureusement fidèle. Elle ne vit pas apparaître sa mère, qui, surprise qu'elle ne se fût pas rendue comme de coutume auprès d'elle, afin de lui offrir de faire leur promenade quotidienne, s'était mise à sa recherche. Immédiatement, la marquise de Montgolfier comprit qu'un nouveau malheur était arrivé, et elle se dit « Oh, Michel vient certainement d'apprendre la mort de son mari !» Elle s'approcha de la jeune femme et posa doucement sa main sur son épaule. Michel redressa la tête. Apercevant sa mère, elle eut un cri étouffé. « Oh, maman, tu étais là !» Madame de Montgomère reprenait. « Ma chérie, un tel désespoir ne peut s'expliquer que par une irréparable catastrophe. Henri n'est plus, n'est-ce pas ?»« Oh, si, mère, il est vivant. Alors ?» Michel comprit qu'elle ne pouvait plus dissimuler la vérité à la marquise. Et d'une voix brisée, elle ajouta. « Il m'arrive le malheur le plus épouvantable que l'on puisse imaginer. »« Mais quoi donc ?» À bout de force, elle dit d'une voix brisée. « Lisez !» Et elle tendit à sa mère la missive d'Henri. Au fur et à mesure qu'elle en prenait connaissance, la pauvre femme manifestait une angoisse indicible. Quand elle eut terminé, elle était d'une pâleur inquiétante, et de ses lèvres décolorées, ses mots s'échappèrent. « Ma pauvre petite, t'accuser ainsi, toi ? Mais c'est effroyable ! Il faut que ton mari ait perdu la tête ! Mais tu vas te défendre !»« Me défendre comment ? Puisqu'il a rompu tout lien avec moi, puisque j'ignore où il est parti. »« C'est vrai !» reconnaissait Madame de Montgomère. Et s'asseyant auprès de sa fille, elle fit d'un ton déchirant. Oh, « Comme on a raison de dire que le bonheur n'est pas de ce monde !» Puis elle attira son enfant dans ses bras, et Michel, appuyant sa tête contre l'épaule de sa mère, se mit à pleurer doucement, comme lorsqu'elle était toute petite et qu'à la suite d'un gros chagrin, elle venait se réfugier près de celle qui savait si bien consoler ses peines. Cette fois, sa douleur était tellement terrible qu'aucune parole, aucune caresse, aucune exhortation maternelle n'était capable de la calmer. Madame de Montgomère le comprit très bien. Et pourtant, elle ne pouvait laisser sa fille ainsi. Elle sentait qu'il était indispensable de la secourir moralement dans le plus brave délai. Car mieux que personne, elle savait qu'il est des peines qui tuent les unes lentement, les autres très vite, et elle tremblait à la pensée que le coup de massue que venait de recevoir Michel pouvait très bien être mortelle pour elle. Elle chercha de quelle façon elle pourrait allumer dans l'âme en deuil de la malheureuse jeune femme une lueur d'espoir, si faible fut-elle. Et elle se disait, mais il est certain que si Michel pouvait rejoindre son mari, elle aurait toutes les facilités possibles de s'expliquer avec lui et de lui démontrer son innocence. Tout le problème est là, donc, mais quelle difficulté pour le résoudre! Et elle se mit à chercher une idée capable de la conduire dans la bonne voie. Tout à coup, son visage inquiet et désolé parut se rasséréner quelque peu, et bientôt elle reprit. Ma chérie, écoute-moi, je t'en prie. Je crois que je viens d'avoir une pensée utile. En effet, ainsi que tu le sais, nous sommes parents assez rapprochés d'un ancien président à la cour d'appel de Paris, Monsieur de La Fontenelle. Je suis persuadé qu'il peut te donner d'excellents conseils et d'indiquer, grâce aux relations qu'il possède dans le monde judiciaire, les moyens de rechercher et de retrouver Henri. C'est une excellente pensée, en effet, approuvait la jeune femme. Mais je ne voulais pas m'adresser à la justice, car j'aurais l'air de me joindre à ceux qui accusent mon âme mari. Et malgré tout, je reste convaincue de son innocence, et je suis certaine que s'il agit de la sorte envers moi, c'est parce qu'il me croit coupable. Raison de plus, ripostait Madame de Montgomère, pour que toute la vérité se fasse jour. D'ailleurs, la démarche que tu feras auprès de notre parent sera tout à fait confidentielle. Tu demanderas le secret. Oh, je suis sûr qu'il te le promettra, et je suis néanmoins persuadé qu'il te donnera d'excellentes directives que tu pourras suivre en toute sécurité. Car notre cousin de La Fontaine est l'honneur, l'intelligence et la bonté même. Je le sais, mère, reprenait Michel, un peu réconforté par l'intervention de la marquise. Je vais lui téléphoner tout de suite pour lui demander quand il peut me recevoir. Elle se releva, de nouveau galvanisée par la volonté courageuse de la marquise de se disculper vis-à-vis de l'homme aimé, et elle se dirigea vers l'appareil téléphonique qui était placé sur une petite table dans une encoignure de la pièce. Tandis que Madame de Montgomère se félicitait d'avoir réussi à rendre sa fille l'énergie dont elle avait plus que jamais besoin dans ces tragiques circonstances, Michel décrochait l'appareil et demandait le numéro du président. Il faut croire que la magistrature bénéficie encore auprès de ces demoiselles du téléphone d'un certain prestige, car Madame de Préfailles obtint presque aussitôt la communication demandée. Monsieur de La Fontenelle, qui se trouvait chez lui, s'en vint aussitôt à l'appareil et répondit à sa jeune cousine qu'il la recevrait avec plaisir ce jour même vers 17 heures. Michel fut exact au rendez-vous. Lorsqu'elle pénétra dans le cabinet de travail de son cousin, celui-ci s'en fut droit à elle et l'accueillit avec beaucoup d'empressement. Il lui avait d'ailleurs toujours témoigné beaucoup d'humanité et beaucoup d'estime. Persuadée qu'elle venait le trouver au sujet de l'affaire à laquelle son mari était mêlé, le magistrat commença sur un ton d'affectueux reproche. Ma chère Mathilde, il faut d'abord que je vous gronde. Pourquoi êtes-vous restée si longtemps sans me donner de vos nouvelles? J'étais si malheureuse, répondit Madame de Préfailles. Mais raison de plus pour vous rapprocher de votre famille. Vous savez bien pourtant que j'ai toujours eu envers Madame votre mère et vous un sentiment d'amitié que rien ne pourrait entamer. Et ce n'est pas au moment où vous aviez le plus besoin de conseils que je me fusse dérobé et qu'il me fût venu à un seul instant la pensée de vous rendre responsable de la situation fâcheuse de votre mari. Mon cousin, reprenait Michel, en regardant le président dont le visage complètement rasé au profil aristocratique et aux grands yeux clairs, reflétait à la fois une grande conscience et une chevaleresque générosité, je vous suis profondément reconnaissant de votre accueil. Si je ne suis pas venu vous voir plus tôt, c'est uniquement par discrétion, hein, parce que je n'aurais pas voulu que vous puissiez en croire à un seul instant que je faisais appel en faveur d'un accusé à la grande influence que vous avez dans le monde judiciaire, et que vous devez autant à votre intégrité morale qu'à votre valeur professionnelle. J'apprécie infiniment votre délicatesse, reprit le président, et je vais vous mettre tout de suite à votre aise. Je n'ai jamais cru à la culpabilité de Henri de Préfailles. Ah, comme je suis heureuse de vous entendre parler ainsi. Bien, je vais même vous annoncer une bonne nouvelle. Je n'ai pas cessé de suivre l'instruction en cours. Il n'y a pas 10 minutes, je viens d'apprendre par le juge d'instruction qui a eu l'amabilité de me téléphoner lui-même qu'à la suite du remboursement intégral des créanciers de la Banque de l'Orme et compagnie et après le retrait des différentes plaintes dont votre mari était l'objet, une ordonnance de non-lieu avait été rendue en sa faveur. « Oh, mon cher cousin, reprenait Michel, oh, ce que vous m'annoncez me cause une joie infinie. Ainsi que vous le devez le penser, moi aussi, je n'ai pas suspecté un seul instant l'honnêteté de Henri. Mais ce n'est pas au sujet de cette affaire que j'étais ici. C'est pour une cause beaucoup plus grave. » Mais quoi donc, ma chère petite? Et comme la jeune femme ne pouvait retenir un sanglot, M. de La Fontenelle s'écria: auriez-vous reçu de mauvaises nouvelles du Maroc? Non, mon cousin. Henri n'est plus au Maroc. Il a été libéré. Il devait même être encore hier à Paris. Car voici la lettre que j'ai reçue de lui, et c'est cette lettre que vous allez lire qui m'a inspiré la démarche que je fais en ce moment auprès de vous. » Madame de Préfailles passa au magistrat la missive de Henri. Monsieur de La Fontenelle la lut d'un bout à l'autre, puis regarda sa cousine d'un air de profonde compassion. Tout de suite, Michel s'écriait: « Mais avant tout, laissez-moi vous jurer que je ne suis pas coupable. » Le président reprenait: un tel serment est complètement inutile de votre part. Je sais trop dans quelle tradition d'honneur vous avez été élevé pour que je puisse vous croire un seul instant capable d'avoir trompé un homme que vous saviez d'ailleurs épouser par amour. Je vous remercie de votre estime et de votre confiance. Mais elles sont toutes naturelles, affirmait M. de La Fontenelle. Plus que jamais vous y avez droit. « Dites-moi ce que vous désirez de moi. Tout ce qui me sera possible, je le ferai de grand cœur, soyez-en sûr. Trop heureux si je puis vous aider à dissiper cet horrible malentendu. Pour cela, répliquait la jeune femme, il faudrait avant tout que je me rencontre avec Henri. Je n'ai aucune espèce d'indication, rien, absolument rien, le néant. » Évidemment, reconnaissait le président, une telle recherche est beaucoup trop compliquée pour que vous puissiez vous y livrer avec quelque chance de succès. Mais il est des gens dont la spécialité est de retrouver les disparus. Nous avons des inspecteurs de police qui sont des limiers les plus remarquables. Et je suis certain qu'il leur serait beaucoup moins difficile que vous ne le pensez de retrouver la piste de Henri de Préfailles. Mais en y réfléchissant, je crois qu'il vaudrait mieux, au lieu de nous adresser à la police officielle, nous diriger vers une agence privée, qui nous offrirait toutefois toutes les garanties de discrétion et d'adresse indispensables au succès d'une enquête aussi délicate. Je crois en effet, mon cher cousin, que vous avez absolument raison, approuvait la comtesse de Préfailles. Mais l'ennui est que je ne connais aucune officine de ce genre. Eh bien moi, reprenait M. de La Fontenelle, je puis tout de suite à ce sujet vous donner le plus utile renseignement. Je connais en effet, depuis déjà une vingtaine d'années, un ancien agent de la Sûreté générale qui, avant la guerre, a acquis, grâce à ses nombreux et retentissants exploits, une réelle célébrité. Mobilisé en 1914 comme officier de réserve, ce détective, après s'être vaillamment battu et avoir mérité la Légion d'honneur et la Croix de guerre, a été mis en sursis d'appel et s'est livré à une chasse aux espions qui ont achevé d'en faire un véritable héros populaire. À l'armistice, il a donné sa démission et s'est établi détective privé. Non, ce n'est pas seulement l'incomparable limier dont le flair est devenu légendaire, mais encore un homme d'un courage et d'une loyauté qui lui ont valu toutes les confiances et toutes les sympathies. Ayant pour principe de n'accepter que des affaires basées sur le droit et la justice, défenseur des honnêtes gens, champion des nobles causes, jamais il ne s'est fourvoyé en des affaires douteuses, quand bien même cela eût été pour lui la source d'importants profits. Sa réputation, solidement établie et basée sur sa valeur professionnelle, son grand caractère, lui a valu une clientèle qu'il sert avec autant de succès et d'honnêteté, d'intelligence et de zèle. Ce détective n'est autre que le célèbre Chantecoq. Ah, vous aviez raison de dire célèbre, s'écria la comtesse de Préfailles. Qui l'a entendu parler des hauts faits de ce grand policier? L'histoire de Belphégor, le fantôme du Louvre, le mystère du train bleu, la maison hantée, le crime de l'aviateur, etc., etc., et toutes ces histoires qui ont défrayé la chronique sont encore présentes à mon esprit. Je ne vous cacherai pas que j'ai toujours éprouvé une grande admiration et une réelle sympathie pour ce véritable héros, qu'est celui que les autres appellent le roi des détectives, et les autres notre Chantecoq national. Surnom qu'il mérite entièrement, appuya le magistrat. Alors, interrogeait Michel, vous croyez que M. Chantecoq consentira à se mettre à la recherche de mon mari? Oh, je suis persuadé. Oh, vous m'en voyez infiniment satisfaite. Dès ce soir, déclara le président, je vais me mettre en rapport avec lui et je suis persuadé qu'il va immédiatement se mettre en campagne. Cette affaire est bien faite, non pas seulement pour l'intéressé, mais encore pour le passionné, car c'est un merveilleux artiste en son art. Oh, je ne saurais combien, mon cher cousin, vous exprimer ma reconnaissance, mais c'est une question avant tout que je dois aborder avec vous. Laquelle donc? Celle des honoraires de M. Chantecoq. Vous devez savoir que je ne dispose maintenant que de faibles ressources et que ma mère et moi, nous n'avons que médiocres revenus. Soyez tranquille à ce sujet, rassura immédiatement M. de La Fontenelle. Chantecoq est l'homme le plus désintéressé que j'aie jamais rencontré sur terre. Il le peut, car il a gagné une fortune considérable, retrouvant pour le compte de richissimes américaines les colliers de perles et de bijoux que celle-ci avait perdus ou se devait voler dans certains établissements de nuit, qu'avec le service qui les caractérise, elles avaient l'imprudence de fréquenter. Celle-là, il ne les a pas manquées, et il a eu joliment raison. Mais avec vous, c'est tout autre chose. Chantecoq, sous ses apparences sceptiques, ironique même, à un cœur d'or. Au fond, c'est un grand sentimental, et la perspective de réconcilier un ménage aussi charmant que le vôtre et de réunir à nouveau deux âmes aussi injustement séparées ne peut que le tenter grandement. Peut-être pour la forme, vous demandera-t-il quelques billets de 1 000 francs. Je crois plutôt qu'il se contentera d'un cadeau que vous lui ferez lorsqu'il aura réussi. Vous croyez qu'il réussira? J'en suis sûr, car il n'a jamais connu le moindre succès au cours d'une carrière si remplie. Soyez donc entièrement assuré. Ainsi que je vous l'ai dit, je vais entrer immédiatement en rapport avec Chantecoq. Je vous demanderai même de me confier cette lettre, afin d'aller plus vite en besogne, car il est parfaitement capable de lui trouver des éléments et des indices qui nous ont échappé. Faites comme il vous plaira, mon cher cousin, accepta Michel. Je m'en rapporte entièrement à vous, et je ne puis que me féliciter de votre intervention, et vous en exprime à nouveau une gratitude infinie. Et moi, croyez que je suis enchanté de vous rendre ce service. En tout cas, laissez-moi vous dire que vous n'aurez qu'à obéir aveuglément à M. Chantecoq. Parfois, il vous posera des questions qui pourront vous paraître puériles et même indiscrètes. Peu importe, répondez-lui sans hésiter. Vous pouvez lui confier vos secrets les plus intimes. Il est incapable d'en répéter même un atome à qui que ce soit. Suivez toutes ses directives, accomplissez toutes les démarches, même les plus inexplicables, qu'il ne manquera pas de vous demander. Et soyez tranquille. Si de votre première entrevue, Chantecoq vous déclare qu'il réussira non seulement à retrouver Henri de Préfailles, mais encore à lui démontrer victorieusement votre innocence, ce sera fait sans coup férir. Cela demandera certainement un certain temps. Mais le résultat est inéluctable. Vous pourrez, en l'attendant, vivre dans l'espérance, ce qui est déjà une grande consolation et un puissant réconfort. Oui, et c'est à vous que je devrais, mon cousin. Combien maman va être satisfaite lorsque je vais lui dire que vous consentez à me venir en aide dans cette si douloureuse circonstance. Et comment va ma cousine? Interrogeait le président. Pas trop mal en ce moment. Je suis même étonné de constater combien elle a supporté vaillamment les terribles épreuves que nous traversons. On sent qu'elle veut vivre, pour moi surtout, pour ne pas être laissée seule dans la vie. C'est une noble femme, reprit M. de La Fontenelle. Elle a beaucoup souffert. Oui, je sais que mon père n'a pas toujours été envers elle le mari qu'elle méritait d'avoir. Mais tout cela est le passé, reprenait le président avec un sourire mélancolique. Oublions-le pour ne plus vous occuper que du présent. Car je suis sûr que le jour où votre mère vous verra de nouveau heureuse, il n'y aura plus d'ombre à son bonheur. Michel se leva et, tendant la main au magistrat, elle fit. Alors à bientôt, n'est-ce pas? N'hésitez pas à venir me voir chaque fois que vous le jugerez utile, encouragea M. de La Fontenelle. D'ailleurs, j'ai l'intention de rendre demain visite à votre mère, et je suis persuadé que d'ici là, vous aurez été convoqué par Chantecoq. Car notre détective est un homme extrêmement expéditif. Tenez, je vais vous en donner la preuve, en lui téléphonant immédiatement devant vous, afin de lui demander un rendez-vous pour moi, ce qui vous évitera de lui faire vous-même l'exposé de votre si douloureuse aventure. Monsieur de La Fontenelle s'empara de l'appareil téléphonique placé sur son bureau, et demanda le numéro de Chantecoq, et il l'obtint aussi rapidement que Michel avait eu elle-même sa communication avec lui. Le détective était justement chez lui. « Allô ?» fit le magistrat. « C'est moi, le président de La Fontenelle. »« Oui, ça va très bien, je vous remercie. »« Vous aussi, oh, alors tant mieux. »« Dites-moi, mon cher Chantecoq, je voudrais vous parler d'une affaire excessivement intéressante. Allô, allô? Oui, parfaitement, dès ce soir, chez vous, si vous le voulez, vers 21h. Non, ne vous excusez pas, je sais combien vous êtes occupés, et puis nous serons beaucoup mieux pour parler. Entendu, à ce soir. tout en raccrochant le récepteur, M. de La Fontenelle dit à sa cousine « Vous voyez, ça n'a pas traîné. Je ne serais pas du tout surpris que Chantecoq, qui m'a l'air en ce moment de ne pas avoir trop à faire, vous convoqua en personne dès demain. En attendant, il ne faut pas vous laisser abattre. Bien que je sois devenu plutôt sceptique au cours de l'exercice de ma profession, j'estime cependant qu'il y a encore une justice en ce monde. » Madame de Préfailles serra avec effusion la main que lui tendait le président. Puis elle rentra chez elle, sinon apaisée et tout au moins moins découragée. Elle n'était plus seule dans la vie, et ainsi que lui avait dit l'excellent président de La Fontenelle, il y avait peut-être encore ici-bas une justice. Chapitre 10. Chez le roi des détectives. Rentrant chez elle, Michel s'était empressé de mettre sa mère au courant de l'entrevue qu'elle venait d'avoir avec son cousin. Très satisfaite du résultat de cet entretien, Madame de Montgobert ne put que se féliciter grandement d'avoir conseillé cette entrevue à sa fille. Les deux femmes passèrent une nuit un peu moins mauvaise qu'elles auraient pu le redouter. Maintenant, l'espoir était en elles, et il n'y a rien de tel pour réconforter les âmes épuisées par de trop longues et de pénibles douleurs morales. Le lendemain, vers 9 heures, une sonnerie de téléphone appelait Madame de Préfailles à l'appareil. Ainsi que le président de La Fontenelle lui a annoncé, c'était le grand limier Chantecoq qui téléphonait lui-même à Michel, qu'il attendait celle-ci le jour même à 9 heures de l'après-midi, chez lui au numéro 7 de l'avenue de Verzy. Tout de suite après, avec un accent plein de respectueuse bienveillance, le détective ajouta « Je tiens d'un à présent à vous dire, madame, que votre cas m'intéresse beaucoup et qu'ainsi que je l'ai déclaré à monsieur le président de La Fontenelle, je ne puis que me féliciter d'avoir été chargé par lui d'élucider un mystère aussi intéressant. » En quelques mots, la jeune femme remercia son interlocuteur et lui promit d'être exact au rendez-vous que celui-ci voulait bien lui donner. En effet, à 14h05, Michel, après avoir longé l'avenue des Ternes presque entièrement, franchissait la grille ouverte qui donne dans l'avenue de Verzy, cité calme, paisible, intime et charmante. Ainsi que nous l'avons décrite dans le mystère du train bleu, et nous le reproduisons pour celles de nos lectrices et ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas lu ce récit, l'avenue de Verzy est l'une des rares et derniers coins de Paris où, TSF à part, un travailleur intellectuel peut encore se livrer à son labeur quotidien sans être obsédé par le vacarme urbain et dormir la nuit sans être contraint de se mettre du coton dans les oreilles ou de s'enfouir la tête sous son oreiller. Laissant à droite de vastes immeubles de construction récente et que l'on devinait doués de tout ce qu'il était convenu d'appeler le confort moderne, Michel de Préfailles se dirigea vers un petit hôtel enfoui sous la verdure et dont l'architecture extérieure rappelait un peu celle d'un de ces jolis cottages normands tel qu'on en voit sur les plages du Calvados ou de la Manche. C'était là que Chantecoq avait élu domicile. La comtesse s'arrêta devant une porte grillée, encastrée dans une clôture assez élevée et toute garnie de lierre. Elle sonna. Presque aussitôt, un valet de chambre, qui avait plutôt les allures d'un ancien soldat que d'un domestique, sortit de la maison, descendit les marches du perron, traversa un jardinet fleuri et s'en vint ouvrir à la visiteuse. Avec beaucoup de politesse, il lui demanda « Vous êtes bien madame la comtesse de Préfailles ?» La jeune femme répondit par un signe de tête affirmatif. Alors le valet de chambre fit avec beaucoup de déférence « Monsieur Chantecoq attend madame, si madame veut bien me suivre ?» Michel pénétra dans le jardinet. Le valet de chambre referma la porte et conduisit Madame de Préfailles jusqu'à la maison et la fit pénétrer dans un vestibule puis dans un petit salon d'attente. Je vais aller prévenir Madame Chantecoq que Madame la Comtesse est là. Et rondement, il ajouta: oh, Madame n'aura pas beaucoup besoin de patience, car M. Chantecoq ne fait jamais attendre personne. Il reçoit le monde tout de suite ou pas du tout. Cet excellent serviteur, qui répondait au nom de Pierre Gautret, avait dit la vérité, car 2 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il revenait dans le petit salon et annonçait à la duchesse, comtesse: Monsieur Chantecoq vous attend. Puis il ouvrait une porte qui donnait accès dans une vaste pièce meublée avec goût, ornée de bibelots et au fond de laquelle se dressait une grande bibliothèque garnie de livres aux riches reliures. On eût dit plutôt un studio d'artiste que le bureau d'un policier. Assis devant une table recouverte de documents méticuleusement rangés, Chantecoq, dès qu'il aperçut Madame de Préfailles, se leva, s'en fut au-devant d'elle et lui dit: « Madame, soyez la bienvenue. » Et lui désignant un fauteuil placé près de son bureau, il l'invita: « Veuillez vous asseoir. » Madame de Préfailles s'exécuta. Son interlocuteur, d'ailleurs, lui avait été immédiatement sympathique. Il était bien tel que l'avait dépeint à la veille son cousin le président. Elle ne pouvait véritablement pas rêver un détective mieux fait pour inspirer dès le premier abord une confiance absolue. Chantecoq s'en fut reprendre sa place devant sa table de travail et y attaqua immédiatement. « Madame, monsieur le président de la Fontenelle a bien voulu hier me mettre au courant de la situation douloureuse dans laquelle vous vous débattez. Il m'a remis la lettre de votre mari. Je l'ai déjà étudié avec le plus grand soin. Il est hors de doute que sa bonne foi est absolue et qu'il vous croit coupable. J'ajouterai même qu'un certain détail de son écriture, car je suis un peu graphologue, j'ai cru m'apercevoir qu'il avait beaucoup de peine. J'en ai donc conclu qu'il vous aimait toujours et que, dès que vous lui aurez tout fourni la preuve que vous êtes innocente, il sera le premier à vous demander pardon de sa méprise et à vous rendre tout son amour. Voici un premier point d'acquis, et il a son importance, puisqu'il est la base même des opérations auxquelles nous allons nous livrer. Tout d'abord, permettez-moi, madame, de vous poser quelques questions. J'ai besoin d'être très rigoureusement renseigné sur tous les détails de ce drame intime qui a bouleversé votre vie. Parlez, monsieur, déclarait la jeune femme, et soyez persuadé que je vous répondrai avec toute la sincérité dont je suis capable. Connaissez-vous dans votre entourage des gens capables d'avoir agi contre vous en persuadant votre mari que vous lui aviez été infidèle? Oh oui, monsieur Chantecoq, ripostait Michel avec force. Un homme m'a voué une haine terrible, parce qu'en l'absence de monsieur de Préfailles, j'ai refusé de devenir sa maîtresse ainsi qu'il me le proposait. Oui, c'est monsieur Jack Sorrett, le milliardaire américain. Oui, lui-même. Et vous croyez que ce Jack Sorrett serait capable d'une telle infamie? Tout d'abord, je ne l'ai pas cru. Mais en y réfléchissant, j'ai acquis la conviction qu'il n'y avait que lui qui ait pu briser ainsi mon existence en inventant je ne sais quelle calomnie ou même en commettant des faux sur lesquels mon mari s'est basé pour m'accuser et me condamner d'une façon si implacable. Voilà un événement qu'il ne faut pas dédaigner, soulignait Chantecoq, que les déclarations si nettes et si catégoriques de son interlocutrice semblaient vivement captivées. Il se tut. Sans doute ruminait-il dans son esprit les diverses suppositions que lui inspiraient ses confidences. Madame de Préfailles reprit: « Monsieur Chantecoq, si vous avez encore quelques questions à me poser, je vous en prie, ne vous gênez nullement. Je suis là pour vous répondre. » Mais pour l'instant, madame, je ne vois pas ce que je pourrais bien vous demander, puisque vous venez de me mettre, dès notre premier contact, sur une piste qui ne peut manquer d'être la bonne. Il s'agit donc pour moi de surveiller ce Jack Sorette. Oh, ce n'est qu'une hypothèse de ma part, observait prudemment la jeune femme. Oh, hypothèse qui m'a tout l'air de serrer de bien près la vérité, déclarait le grand limier. En tout cas, j'ai un principe. C'est ainsi qu'on le dit vulgairement, de ne jamais courir deux lièvres à la fois. Si je m'aperçois que je faisais fausse route du côté de cet Américain, je vous demanderai alors, madame, d'autres renseignements. Croyez, monsieur, que je vous les fournirai avec le plus grand vif empressement et la plus entière loyauté. Chantecoq répliquait: oh, j'en suis sûr, madame. Et voilà pourquoi je suis très tranquille sur l'issue de cette affaire. Je ne vous dissimulerai pas, surtout, si, comme j'en suis aux trois quarts persuadé, j'ai pour adversaire ce Jacques Sorette, moi. Oui, je ne vous cacherai pas que je vais me trouver en face de difficultés assez sérieuses. Mais, sans faux orgueil, je puis affirmer que je saurai les surmonter. Je n'en doute pas un seul instant, monsieur Chantecoq. Tous vos exploits passés sont la meilleure garantie de votre triomphe. Je vois que mon cousin n'avait pas exagéré en me disant de vous le plus grand bien, aussi bien comme homme privé que comme détective. Et c'est du fond du cœur que je vous dis, monsieur Chantecoq, je remets mon honneur et mon bonheur entre vos mains. Soyez convaincue, madame, répliquait Chantecoq, enchanté de l'attitude de cette charmante femme qui lui inspirait déjà une très franche sympathie, que je mettrai tout en œuvre pour reconstruire votre foyer et aussi pour faire justice du gredin qui a eu l'infamie de le détruire. Maintenant, reprenait Michel, il me reste à vous parler de vos honoraires. Oh, ne vous en inquiétez pas, madame, déclarait le roi des détectives. Nous sommes mis d'accord, votre cousin et moi. Nous en reparlerons lorsque l'heure est réussie. Oh, je suis véritablement confuse. Vous aurez bien tort, chère madame. C'est moi, au contraire, qui me considère comme votre obligé. Michel reprenait. Mon cousin le président m'a conseillé de suivre aveuglément toutes vos directives. Veuillez donc être assez aimable pour me dire ce que je dois faire. Chantecoq répliquait en souriant: rien, du moins pour l'instant. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de rester tranquillement chez vous. Mais par exemple, de me prévenir immédiatement de tous les incidents qui pourraient surgir et qui seraient de nature soit à vous inquiéter, soit à m'apporter des renseignements supplémentaires. De même, si vous recevez des lettres anonymes ou des lettres signées dans lesquelles il serait fait allusion à votre mari, je vous prierai de bien vouloir me les apporter vous-même dans le plus bref délai. Il vous suffira de me téléphoner le matin, toujours avant 9 heures, afin que je puisse prendre rendez-vous dans la journée. Je n'ajouterai qu'un mot. J'aurai absolument besoin avant ce soir d'une photo de votre mari, la plus récente si possible. C'est entendu, monsieur Chantecoq. Je me conformerai exactement à ce que vous venez de me dire. Dans ces conditions, concluait le grand limier, je suis persuadé que nous allons admirablement nous entendre et que nous allons faire de l'excellente besogne. D'ailleurs, je vais me mettre tout de suite en campagne. Et dès que j'aurai quelque chose d'intéressant, soyez sûr que je m'empresserai de vous le communiquer immédiatement. N'ayant plus rien à dire au détective et comprenant que celui-ci avait besoin de tout son temps, elle se leva et, après l'avoir remercié chaleureusement de l'intérêt qu'il voulait bien lui porter, elle prit congé de lui et se retira, accompagnée jusqu'en dans le vestibule par Chantecoq, dont, en tout bien, tout honneur, elle semblait avoir fait la conquête. Le roi des détectives regagna son cabinet de travail et se mit à se promener de long en large, réfléchissant à l'entretien qu'il venait d'avoir et cherchant déjà à tirer des conclusions claires et logiques de ce qu'il venait d'apprendre. Au bout de 10 minutes environ, il s'arrêta et appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique qui se trouvait placée sur la table de travail. Aussitôt, une porte en tapisserie s'ouvrit, laissant apparaître un petit bonhomme mince, sec, étriqué, aux faciès de clown, aux allures de jockey, au regard fureteur, sans cesse en éveil. C'était le secrétaire de Shandcock. On ne le connaissait que sous le nom, ou plutôt le surnom, de Météore, qui devait à sa faculté d'apparaître et de disparaître avec une rapidité qui tenait du prodige. Remarquablement intelligent, dévoué à son patron jusqu'à la mort, depuis 3 ans qu'il s'était attaché à sa personne, Météore avait rendu à son patron les plus grands services. Tout de suite, il s'était dirigé vers le roi des détectives, qui lui lança immédiatement « Tu as bien pris en sténo, la conversation que je viens d'avoir ?»« Oui, patron, » répliqua Météore. Et tout en montrant à Shandcock un carnet qu'il tenait à la main, il fit « La voici, avez-vous besoin que je la relise ?»« Non, non, c'est inutile. Contente-toi seulement de la taper tout à l'heure à la machine et de la joindre dans le dossier à la lettre de M. de Brefailles. » Auparavant, je ne serais pas fâché d'avoir ton opinion sur cette histoire que tu connais aussi bien que moi, puisque de ton poste d'écoute, tu as assisté à l'entretien que j'ai eu hier soir avec le président de la Fontenelle, et celui que je viens d'avoir il y a quelques instants avec cette pauvre jeune femme. « Patron, » répliquait Météore, « sans la moindre hésitation, je partage entièrement votre opinion. C'est une affaire intéressante, très différente de celle que vous avez traitée jusqu'à ce jour, et dont l'issue ne peut être que favorable. » Bien que, ainsi que vous l'avez dit à Madame Brefailles, nous ayons à lutter contre un adversaire qui possède l'arme la plus redoutable de toutes, c'est-à-dire une fortune considérable et inépuisable. Météore, météore, grondait Shandcock, j'aime pas beaucoup cette réserve au sujet de l'argent. Tomberais-tu dans le travers des hommes de notre temps qui prétendent que l'argent est tout, puisque par lui on peut devenir le maître non seulement des biens, mais aussi des armes de ses contemporains. « Oh, pardon, je ne vais pas jusque-là, patron, » protestait le secrétaire. « Mais nous devons tout de même reconnaître qu'à notre époque, le fric... »« Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, je vous demande pardon, patron. Je me suis encore laissé aller à parler argot. Je sais que vous n'aimez pas cela, et vous avez raison, car c'est une très mauvaise habitude. » Donc, je voulais vous dire que tout de même, j'en étais bien obligé de compter avec l'argent et que, par conséquent, Jack Surette était un bonhomme avec lequel il fallait prendre des précautions. Mais au fond, ce que je dis là, c'est parfaitement idiot, car malgré tout son pognon, oh pardon, malgré toute sa galette, oh encore pardon. Charles de Coq déclarait en souriant, « Galette, c'est mieux. » « Eh bien, malgré toute sa galette, cet Américain n'est pas de taille à lutter avec vous. Seulement, il y aura du sport et... »« Là, je suis absolument de ton avis, » déclarait le grand limier. « Mais c'est justement pour cela que l'histoire que nous allons vivre me captive déjà. »« Et moi donc, patron, plus j'avance dans le métier, plus vous m'initiez à tous vos trucs et patents de police, et plus j'en arrive à me convaincre... que c'est beaucoup plus amusant de se battre avec des géants que de courir après des nabots. À la bonne heure, répliquait le roi des détectives. Voilà comme j'aime t'entendre parler. Bon, alors tu te sens en forme. Très, moi aussi. Allez, va vite taper ma conversation avec Madame de Brefailles. Quand ça sera terminé, tu reviendras ici afin que je te donne mes instructions. Si nous voulons réussir cette affaire, il s'agit d'aller vite et bien. Compris, patron. Et Météore s'évapora littéralement de la pièce. Shandcock revint s'asseoir devant son bureau. Maintenant, se dit-il, comme je tiens le fil conducteur, il s'agit de ne pas le laisser casser dans ma main. Nous devons faire le nécessaire pour cela. Voyons. Est-ce que par hasard, je n'aurais pas dans mon répertoire quelques notes au sujet de ce Jack Sorette? Oh, mais parfaitement, maintenant je me souviens très bien. Un jour, il m'a fait demander de m'occuper d'une affaire de vol de titres dont il avait été victime. J'ai d'ailleurs refusé parce que le bonhomme ne m'était pas sympathique. Bah, voyons un peu les notes que j'ai prises à cette époque. Il se leva, s'enfuit vers un coffre-fort assez vaste et qui faisait face à la grande bibliothèque. Il en manœuvra le secret, l'ouvrit et prit dans l'un des tiroirs de ce meuble, d'une solidité à toute épreuve, plusieurs liasses de dossiers rangés par ordre alphabétique et par année. Il ne tarda pas à tomber sur une chemise qui portait inscrit en lettres de ronde ces simples mots Jack Sorette. Après avoir refermé soigneusement son coffre, il revint vers sa table sur laquelle il étala les différentes pièces contenues dans la chemise. Il y avait tout d'abord une photo du milliardaire américain, deux lettres tapées à la machine et signées de sa main, le compte-rendu sténographié et remis au net de l'unique entrevue que Chantecoq avait eue avec lui, et enfin quelques notes de la main du détective qui étaient ainsi rédigées. Cet homme, sous des apparences de froideur, est un grand nerveux, un grand impulsif, dont la volonté ou plutôt les caprices ne doivent pas connaître de limites. D'après quelques mots qui lui sont échappés, je crois pouvoir en déduire que l'origine de sa fortune n'est peut-être pas aussi honorable qu'il le prétend. Cet homme doit avoir un passé trouble. Son regard n'est pas net et par moments, il devient même assez inquiétant. Rien à faire avec cet individu qui me paraît suspect et dangereux et serait parfaitement capable de m'entraîner malgré moi dans une fâcheuse aventure. Lorsque Chantecoq eut terminé l'examen de ses différents documents, il se remit à arpenter son cabinet de travail, ainsi que chaque fois qu'il ruminait un plan. Cette fois, sa promenade autour de son bureau dura près de 20 minutes. Quand elle fut terminée, il se réinstalla devant sa table sur laquelle le dossier Jack Sorette était étalé, nota sur un calepin l'adresse à Paris du milliardaire, puis remit le bout dans sa chemise et s'en fut refermer le dossier complet dans le coffre-fort. Maintenant, se dit-il, je vois comment nous allons attaquer l'affaire. La porte en tapisserie se rouvrait. C'était Météore qui venait annoncer à son patron que sa besogne était terminée. Maintenant, dit Chantecoq, causons un peu et causons bien. Tu vas te rendre immédiatement chez Jacques Sorette, qui habite un hôtel particulier rue de la Faisanderie, près du bois de Boulogne. Tu tâcheras de savoir s'il est à Paris et pour combien de temps. Et tu viendras immédiatement me rendre compte de ta mission. Entendu, patron. Afin d'aller plus vite, prends ma Talbot 6 cylindres que tu conduis avec tant d'habileté. Oh, patron, je n'ai pas grand mérite à cela, une voiture qui marche toute seule. Et le loquace secrétaire allait entamer un éloge enthousiaste de cette firme qui jouit aujourd'hui d'une renommée si éclatante et si méritée dans le monde automobile. Mais Chantecoq ne lui en laissa pas le temps et tout de suite il lui dit: Allez, allez, file! Car j'ai besoin d'être renseigné au plus vite. Météore ne se le fit pas dire deux fois, il se volatilisa. Quant à Chantecoq, il continua à se plonger dans ses réflexions et à mûrir et à détailler le plan dont il s'était déjà tracé les grandes lignes dans son esprit. Une heure après, Météore était de retour. Tout de suite, il déclarait à son patron: Jack Sorette n'est pas chez lui, mais il est à Paris, à l'hôtel Meurice, en compagnie précisément de M. Henri de Préfailles. Tous deux d'ailleurs doivent partir demain, rejoindre le yacht du milliardaire. Comment as-tu appris tout cela? Interrogeait le roi des détectives. Oh, patron, c'est bien simple. J'ai vu une très belle auto arrêtée devant l'hôtel du milliardaire. Je me suis approché, sans avoir l'air de rien. J'ai demandé au chauffeur à qui elle appartenait. Il m'a répondu d'un air orgueilleux qu'elle était la propriété de Sir Jacques Saurett. Moi, j'ai fait la bête, je me suis écrié, d'un air que je cherchais à rendre le plus naïf du monde. Oh, ça, votre patron est donc en ce moment à Paris? D'un air dédaigneux de haut fonctionnaire des finances qui parlerait à un contribuable tremblant de peur. Il m'a riposté. Oh, qu'est-ce que cela peut bien vous faire? Non, je n'ai pas insisté. J'ai fait semblant de continuer mon chemin. Je suis remonté dans ma talbot, d'où j'ai surveillé les allées et venues des gens qui entraient dans l'hôtel et qui en sortaient. Et je n'ai pas tardé à voir apparaître sur le seuil un homme d'une assez haute taille, élégamment vêtu, portant des lunettes noires et ayant sous le nez une moustache que j'ai reconnue immédiatement et sans hésitation comme postiche. Le personnage en qui j'ai immédiatement soupçonné Jacques Saurett est monté dans l'auto qui l'attendait. Alors je me suis mis à le filer avec toutes les précautions usitées en pareil cas. Cela m'a conduit rue de Rivoli à l'hôtel Royal où il est entré. C'était l'enfance de l'art de me débrouiller. J'ai trouvé en effet moyen de prendre place dans l'ascenseur, en même temps que l'homme que je pistais de m'arrêter sur le même palier. Je l'ai vu pénétrer dans un appartement composé de plusieurs pièces et généralement réservé, m'a dit Andy, aux têtes couronnées. J'ai fait parler un chasseur en lui glissant dans la main un billet de 20 francs. Et il m'a raconté que ce monsieur était arrivé depuis 2 jours avec un de ses amis, qu'il comptait repartir le lendemain pour le Havre, qu'il avait même entendu dire que ce monsieur allait partir en croisière sur un très beau yacht qui l'attendait dans le port. J'en ai naturellement conclu que cet appartement princier était occupé par Sir Jacques Saurett et par le comte de Préfailles. Très bien travaillé, approuvait Chantecoq. Le tout est d'empêcher ce voyage, ou tout au moins de le retarder, afin de me donner le temps nécessaire d'approfondir cette affaire et de découvrir quels moyens Jacques Saurett a employés pour compromettre irrémédiablement la comtesse aux yeux de son mari. Oh, je crois que cela ne va pas être très bien difficile. Et comme s'il se parlait à lui-même, Chantecoq reprit. Le plus simple est d'organiser dès maintenant une filature sérieuse qui nous permettra de contrôler tous les faits et gestes de Jacques Saurett. Tu me dis, mais Théor, qu'il est camouflé. Oui, patron. Oh, sa fausse moustache se voyait comme un nez de carton au milieu du visage. Mais il a une raison pour cela. Laquelle? C'est qu'on ignore son passage à Paris. Voilà pourquoi il est descendu à l'hôtel. Cependant, il est allé chez lui. Sans doute avait-il quelques documents importants à prendre. Tout cela est bizarre, mais le moment n'est plus de nous attarder à des méthodes de déduction et d'induction qui nous feraient perdre un temps précieux. Il s'agit au contraire de prendre le taureau par les cornes. Ce soir, l'Américain et le comte de Préfailles vont prendre leur repas dans leur appartement. C'est assez difficile de nous faire inviter à dîner. Pourtant, ce serait tout à fait intéressant. D'ailleurs, sans nous asseoir à la même table qu'eux, ce serait déjà très avantageux de pénétrer dans leur appartement. Non, non, je suis idiot. Il y a un moyen bien plus simple que tout cela. Météor, prépare-nous les costumes numéro 7 pour moi et numéro 11 pour toi. Dès que cela sera prêt, fais-moi signe. Entendu, patron, on va m'en mettre un bon coup. Météore s'évapora pour la troisième fois de l'après-midi, et Chantecoq, qui semblait d'excellente humeur, se frotta les mains d'un air satisfait tout en murmurant: Maintenant, le sort en est jeté. Si dans 48 heures je n'ai pas déchiffré cette énigme, c'est qu'alors je serai décidément mûr pour la retraite.